Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Alors, je m'appelle Kian Kojandi, je suis d'origine iranienne, je suis aussi, du côté de mon père, du côté de ma mère, je suis germano-italien, c'est un sacré mélange, et je suis biberonné aux séries américaines, et je suis français. Et ça, c'est mon chien, qui est berger australien. Donc, pas mal d'immigration aussi de son côté. Mon père est né en Iran. Ma mère est née en France, d'un père italien et d'une mère allemande. Ils se sont rencontrés en Allemagne. Ma mère est partie vivre en Iran avec mon père. Elle donnait des cours de français à l'Académie française en Iran. Voilà, une sorte d'organisme pour la langue française en Iran. Donc elle donnait des cours. Elle a appris le perse là-bas. Elle a appris la culture aussi, elle a appris tous les us et coutumes. Et le plus gros kiff que tu puisses apprendre en Iran, c'est la cuisine, parce que je pense que c'est une des meilleures cuisines du monde. Comme tous les gens qui ont grandi avec une cuisine pensent que la leur est la meilleure du monde. Donc voilà, je suis un peu comme tout le monde à ce niveau-là. Et voilà, ils se sont rencontrés, puis il y a eu le changement de régime en Iran, il y a eu la chute du Shah, donc... mes parents ont décidé à ce moment-là, le pays est tombé vraiment dans une sorte de révolution, situation un peu compliquée quand tu as un enfant qui est mon frère et un deuxième enfant, et mes parents se sont dit bon, on va faire grandir les enfants en France, ça sera peut-être plus posé, le climat on sait pas ce qui va devenir, donc c'était très très instable, beaucoup d'insécurité, beaucoup de... D'après ce qu'ils m'ont décrit, c'était très, très compliqué. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de privation de liberté du jour au lendemain. C'était, on était loin des... On est loin de la France à ce moment-là. Mon père est retourné en Iran dans les années 90. Je crois que pour lui, ça a été une période, cet exil un peu forcé, ça a été une période de dépression lourde. Alors, tu ne le sais pas quand tu es gamin, parce que toi, tu vois juste ton père qui regarde la télé toute la journée. Mais ouais, c'est une dépression assez lente et lourde pour lui. Je pense qu'il a vécu un truc assez compliqué. Il a été arraché de sa vie, quoi. En même temps, quand il réfléchit, si demain, toi, tu devais partir et tout quitter et te retrouver étranger dans une France qui n'est pas... c'est l'époque de Touche pas à mon pote, tu vois, le développement des associations antiracistes, parce qu'il y avait vraiment un besoin, il y avait vraiment un racisme... très très prononcé envers les étrangers. Enfin, c'est comme ça que mon père l'a vécu, donc voilà, c'est ce que je retransmets aujourd'hui. Quand t'es gamin, tu te poses pas la question de savoir d'où tu viens. Tu comprends que la différence, tu comprends que t'es différent parce que tu manges par terre avec une grande tablée une nappée. Une grande nappe par terre et tu manges par terre avec tous les amis de tes parents et la famille. Et tu manges à table avec une autre partie de la famille. Donc tu dis, ah oui, d'accord, il y a deux traditions. Après, ma peau n'est pas marquée par des origines. Du coup, En France, je passe clairement pour un mec qui a des origines françaises sur plusieurs générations. Donc j'ai jamais été marqué par mon origine ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai déjà été dans mon quartier des mecs qui m'ont dit que... Ouais, je me suis déjà fait... Mais c'est trop anecdotique pour dire... Ouais, ce serait pas respecter les gens qui ont grandi vraiment dans un racisme systémique total. Moi, j'ai vraiment jamais ressenti ça. J'ai juste aperçu que j'avais une différence chez moi. Ou qu'à un moment donné, on m'a dit « Ah, qui parle de langue ?» Bah, j'étais le seul à lever la main dans la classe. Donc c'est ma richesse culturelle, elle vient de là. Et puis aujourd'hui, je suis très content de cuisiner. J'ai appris la cuisine très tôt. Tout ce que mon père m'a transmis, je l'ai. Je l'ai acquis très vite. Ils m'ont jamais raconté qu'on était fils de réfugiés ou quoi que ce soit. J'ai jamais. Après, ma mère, quand elle te raconte sa vie, elle est un peu fascinée par cette époque. Ça l'a marqué très fort, hein, l'exil. Si tu veux regarder le film Argo, c'est à peu près ça. Donc de Ben Affleck, c'est un peu ce truc-là. Très beau film. Mon père était quelqu'un d'extrêmement discret, très opaque. J'ai jamais su jusqu'à sa mort. Même, tu vois, dans mon nouveau spectacle, je raconte une histoire, une anecdote que j'ai appris après sa mort. J'ai appris des choses qu'il a vécues. J'étais genre, mais what? Qui, en plus, te donne de la compassion après, de la compréhension à l'égard de ton père. Parce que mon père était quelqu'un d'extrêmement opaque, d'extrêmement... Je pense qu'il nous a... Tu vois, il a toujours été très dur avec moi et mon frère, dans le sens pas très dur, mais pas genre... Ah ouais? Je suis encore bourré, viens ici! Non, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, c'est juste, il a été très... on le décevait facilement. J'en ai beaucoup discuté avec ça, justement, de tous mes potes issus de l'immigration, que ce soit de l'immigration des années 60, les dernières immigrations, tu vois. Même l'immigration polonaise, qui est un peu plus lointaine. J'ai toujours senti la volonté de, quand les parents arrivent dans ce pays, tu sens qu'ils sont plus à leur place, ils doivent se recréer un statut social, et ce qu'ils veulent le mieux pour leurs enfants, c'est que les enfants aient une reconnaissance sociale. Et je pense que c'est ça, ils te transmettent un peu la pression. Et je pense que tu grandis avec un peu cette pression de décevoir tes parents facilement si tu fais pas un parcours type médecin, avocat, c'est-à-dire le tampon du bravo socialement, vous avez réussi, monsieur ou madame. Donc je pense que ça peut forger des vraies déterminations. Moi, ça m'a juste mis la pression, et je la vis mal, la pression. Donc voilà. Après, mon père, il a grandi avec ça. Et je pense que je peux pas lui en vouloir d'avoir voulu que nous on s'en sorte. Tu vois, c'est que de la compréhension, quoi. Mais ça, j'aurais aimé qu'on en parle. Mais bon, je pense qu'on est cette première génération à accéder à la psychologie et justement à avoir ces gens qui te. Je pense pas qu'en Iran, en 1945, on soit à donf dans la psychologie, tu vois. Qu'il ait grandi dans un univers de psychologie. Je pense pas que mes amis, pareil, issus de l'immigration, ont grandi dans la psychologie. Je le sais parce que même les amis qui n'ont pas grandi avec un background de plusieurs origines entre deux parents n'ont pas grandi avec la psychologie. La psychologie, c'est très récent, donc j'aurais aimé que mon père m'explique un peu tout ça. Son exil, tout ça, mais il l'a pas fait. Il disait juste, on s'amusait beaucoup en Iran, et après on s'est plus amusé. Ok. Comme un jeune à qui on a enlevé la capacité de s'amuser, quoi. Parce qu'en même mine de rien, quand ton père il t'a, tu dis putain, en fait, il avait mon âge, en fait. Moi j'aimais. Ah d'accord, ok. Donc si moi à mon âge je dois partir, waouh, chaud. Ça donne de l'indulgence de comprendre ça. Quand j'ai compris ça, je me suis dit ah oui, d'accord, je comprends maintenant que je devienne absolument avocat. Quand je lui dis je deviens humoriste, bon, on s'est plus parlé pendant 3-4 ans. Et puis ça me posait pas de problème de me dire bon, bah écoute, tu veux pas être dans mon. J'étais tellement sûr de ce que je voulais faire que je disais, t'es pas dans mon équipe, c'est pas grave. Je vais être aussi têtu que toi. Parce que les chiens font pas des chats. J'ai pris ça comme une émancipation. Aujourd'hui, c'est... Le parcours, c'est grâce à tout ça. Moi, je pensais que la vie était toute tracée. Si tu veux faire un art, tu veux être artiste, ben, c'est pas possible parce qu'il y a que les artistes qui peuvent devenir artistes. Ce qui est totalement bizarre. Non, mon père, c'était, tu fais du droit, cool, c'est bien. Ma mère, elle fait du droit, elle dit, t'as qu'à faire comme ta mère. Je sentais bien que j'étais pas un matheux, donc pas de médecine, pas de trucs comme ça, pas de science. Et il m'a dit, tu sais quoi, tu fais du droit, deviens avocat. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment fait le début pour devenir avocat, quoi. Je fais 4 ans de droit, et il se dit, ça y est, dans sa tête, il se dit, ça y est, j'étais en stage chez un maître, vraiment bien, en plus, très, 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 très cool et tout. J'ai kiffé ça, mais c'était pas ma passion, quoi. C'était vraiment. Je le faisais pour faire plaisir à mes parents. Et ce que j'ai compris à terme, c'est que faire un truc pour faire plaisir à ses parents, c'est génial parce qu'ils peuvent vraiment s'épanouir dans une conversation au détour d'un dimanche à 14h après le repas en disant « Oui, mon fils est médecin » ou « Mon fils est avocat » ou « Ma fille est médecin, ma fille est avocate ». Si tu fais les choses pour ce moment que tes parents soient fiers de toi vers des gens que tu connais même pas, à un moment donné, aujourd'hui mon père est parti et je suis ravi de ne pas être avocat pour plus aucune anecdote maintenant. Tu vois, je suis. Si j'avais voulu être avocat, j'aurais kiffé être avocat, mais je. Tu vois, j'avais ce sentiment de dire puis ça rend mon père fier de moi si je fais avocat. Et en fait, ce sentiment-là, j'ai voulu le suivre à un moment donné. Je pense que pour ma part, ça aurait été une erreur. Mais tout ça, ça vient du sens du sacrifice de tes parents, enfin de mes parents surtout. Ils ont vraiment le sentiment de tu vois, ma mère, elle s'est donnée à donf pour faire tenir la famille, quoi. Parce que le temps que le père retrouve des repères, tu vois, c'est compliqué. Ce qui est fou, parce que j'ai grandi vraiment avec le schéma inverse de la famille nucléaire, c'est-à-dire que ma mère allait travailler et mon père était à la maison et faisait la bouffe et le ménage. Tu vois, il y avait ce truc, la plupart des autres avaient un autre modèle. Tu vois, c'était plus le père chef de famille. Moi, c'était ma mère la chef de famille. Donc, j'ai grandi dans ce modèle-là. Je suis pas pour qu'il y ait un modèle, hein. Juste en tout cas, j'ai juste constaté qu'il y avait une différence à ce niveau-là par rapport aux autres en termes de différence. Il y avait vraiment une différence. Ouais. Mon père nous a élevés comme il a pu, tu vois. Il avait pas de père, donc il nous a élevés comme il a pu dans un pays où il avait pas toutes les cartes, où il était pas quelqu'un. Parce qu'il faut savoir qu'il était quelqu'un en Iran, dans le sens il avait son groupe d'amis, il était très respecté, très. C'était le mec marrant, tu vois. C'est comme si du jour au lendemain tu peux plus faire des blagues, tu vois. Tu peux plus être le gars marrant, tu peux plus être le gars qui raconte des histoires. Je pense que quand t'as une perte de repères, tu te construis comme tu peux, quoi. T'as des clichés sur l'argent, t'as des clichés, tu vois. Réussir, c'est. Il faut 1 million d'euros, il faut 1 million de francs. À l'époque, c'était des francs, j'avais de la chance. Il faut 1 million de francs pour réussir les enfants. C'est des chiffres comme ça qui te donnent.
C'est des paliers, tu sais.
Ouais, c'est les paliers.
Comme qui veut gagner 1 million.
Ouais, c'est ça, voilà. Une fois que t'as gagné 1 million de francs, c'est bon. Il y a un mec qui vient chez toi et qui dit, c'est bon, vous avez réussi. Voici votre diplôme de réussite. Donc, il a grandi un peu avec des trucs comme ça. Et... Mais oui, dans la pudeur en permanence, on ne parle pas de rêve. On parlait de rien. En fait, il fallait pas dire. Le principe, c'était, il faut pas dire. Il y avait un truc qui disait, c'était, quand tu grandiras, tu oublieras. Ce qui est l'inverse de ce que Freud pense. Freud, il dit, non, au contraire, tu vas bien t'en rappeler.
Et de plus en plus.
Mais j'en parle beaucoup dans mon spectacle, et justement, c'est un moment très drôle.
D'accord. Non.
Et moi, j'en ai fait quelque chose de très drôle, du coup, tout ça, parce que ça reste une situation de non-dit, donc il y a une sorte de tabou, et le tabou, c'est marrant. Je pense qu'être bilingue, déjà, ça crée un cerveau assez atypique, dans le sens où tu peux très vite apprendre. Ça m'a rendu... j'ai une capacité d'apprendre très, très rapide. Je pense que c'est dû à ça. Peut-être que je me trompe. En tout cas, après, je suis vite... je fais des lubies, donc je me concentre. Je peux passer un an de ma vie sur un truc, genre à fond, et le maîtriser. Mais je pense qu'être bilingue, c'est une richesse de ouf pour les enfants, parce que j'ai jamais galéré à apprendre, parce que ma grand-mère était allemande en plus, donc j'étais un peu... Donc j'ai grandi, j'étais quasiment trilingue. Je comprenais déjà toutes les trois langues. Les parler, c'était autre chose, mais je les comprenais les trois. L'allemand, j'ai toujours eu des excellentes notes. En anglais aussi, j'ai appris l'anglais hyper facilement. En regardant juste la télé, j'ai appris l'anglais en 2 secondes. Après, j'avais un super prof d'anglais, mais tout était simple. Je voyais bien qu'il y avait des autres qui bloquaient avec les langues. C'était genre yes, zéar, lat. Moi, j'avais un palais qui pouvait faire... J'ai 3 ou 4 R différents en iranien, donc tu vois, c'est une vraie richesse et ça m'a appris à. Ça m'a donné une vraie richesse d'apprentissage, quoi. La cuisine aussi, ça m'a. L'hospitalité iranienne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand les gens viennent chez moi. Je veux qu'ils se sentent vraiment chez eux, toujours accueillir les gens avec. Faire une bonne cuisine, un bon truc, un truc kiffant, quoi.
C'est de la menthe du jardin.
Oui, voilà, bah voilà. Là, par exemple, là on a un verre d'eau avec la menthe du jardin. Fraîchement découpé.
Exactement.
Parce que c'est vraiment le kiff, quoi. C'est le petit truc, hein. C'est rien, c'est de l'eau, hein. Mais ça fait plaisir. Ça, c'est un truc que mon père avait. C'était. Je pense que c'est pour ça que j'ai cet amour de la menthe. Tu sais, de couper de la menthe le matin et d'enrouler une feuille et de me la glisser dans le nez. C'est con, hein, mais mon père faisait ça tous les matins. Et en fait, là, on est juste devant ma porte de jardin. Et il y a un grand bac de menthe. Et je pense que c'est un de mes trucs qui m'est resté, que j'aime profondément. Le goût de la terre, mon père adorait jardiner. Tu vois, ça, c'est un héritage de lui. Là, entre nous, il y a des framboises, il y a pas mal de choses. J'y porte un intérêt très fort. Je vais entretenir mon jardin, m'amuser, planter des choses. C'est quelque chose qui m'a beaucoup transmis. C'est quelque chose que lui avait en Iran, je pense. Parce qu'il continuait. Enfin, quand il est retourné en Iran, il a repris le jardin de sa famille et on avait, je crois, une cinquantaine de pistachiers centenaires et il a irrigué le truc, il a mis de l'eau, tu vois. Ça peut paraître tout con, mais il suffit de le dire avec un peu de poésie pour que ce soit hyper touchant quand tu vois un mec qui refait jaillir l'eau et qui donne... Personne ne connaît les pistaches à même un arbre. Ben, moi, je les ai connus grâce à l'Iran. Quand je suis allé en Iran, j'ai découvert les pistachiers. Tu manges une pistache fraîche qui tombe de l'arbre parce que ton père a remis de l'eau dans un terrain aride et du coup, l'or est sorti du sol et il y avait plein de choses, plein de trucs à boire, à manger. On mange un petit repas dans une sorte de pénombre, une sorte d'oasis. Je divague un peu, hein, je suis même plus dans la question, hein, désolé, mais c'est un peu des bribes. Il y a des trucs comme ça. Mon père adorait jardiner, donc c'est bizarre, hein, mais j'adore jardiner. J'adore avoir une passion Jardiland, les gars, vous pouvez pas imaginer. Jardiland, pour moi, Jardiland Truffaut, c'est ma life. Vous vous rendez pas compte? J'ai un enthousiasme quand je vais chez Jardiland, je suis là, je suis trop content, quoi.
Comme un enfant,
finalement. Mais ouais, de fou, comme un enfant qui voit un terrain de jeu. Ouais, c'est un peu comme... J'ai le même sentiment devant une Mega Drive, quoi.
Finalement, aussi, comme un enfant qui peut faire ce que fait son père, tu vois.
Ouais, c'est vrai. On reproduit, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. Comme un enfant. Je m'inspire beaucoup, justement, de cette culture du tabou dans... J'ai pris le contre-pied complet, je pense que c'est vrai. Alors, ça peut paraître un peu... cool en 2020 mais en 2008-10 il y avait très très peu d'artistes qui parlaient de masturbation comme de dépression comme de problèmes d'érection comme de fantasmes de constats d'échec. Il y a eu des gens comme Aurel San qui en ont parlé, mais il y avait très très peu de gens qui étaient sans tabou. Et quand j'ai fait ma série, par exemple, j'ai fait une série qui s'appelle Bref. À un moment donné, je parlais de choses très crues comme ça. Et en fait, mon père était là, il me disait, ouais, c'est trop ça. Ouais, c'est trop ça, mais comment ça, c'est trop ça? Moi, j'ai grandi dans un truc où je me suis construit tout seul. Je me suis construit complètement tout seul. Je suis allé à l'opposé du tabou que ma famille m'imposait en permanence. Ne dis pas. Non, dis pas. Dis pas. Dis oui. Quand quelqu'un dit que je dis oui. DV, disait mon père, DV. Et je pense qu'un artiste, justement, doit dire, doit raconter, doit se livrer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai choisi la quête de... En quête d'identité, j'ai choisi la sincérité juste pour autoriser la comparaison avec les autres. Et aujourd'hui, je suis content parce que beaucoup de gens m'ont fait des retours en mode « Ah, c'est cool, tu racontes des choses que j'ai vécues aussi. » Et je me sens moins seul, et eux se sentent moins seuls, et du coup, on se sent moins seul. Du coup, on est plus ensemble, et ça fait plus kiffer. Il y a du plaisir qui naît de ça, donc j'ai pris le contre-pied de ma culture à ce niveau-là. Et ouais, dis pas... Après, mes parents, en plus, ont vécu dans un régime un peu dictatorial, donc c'était toujours avant ou après la Révolution. Hein, c'était pas facile, hein, c'était le côté ne dis jamais... Quand tu montes dans un taxi, c'était la règle, c'était descends toujours deux rues avant ta destination et va à pied. Ne donne jamais l'adresse à un chauffeur de taxi où tu vas. Ne dis jamais rien à tes voisins, ne dis jamais rien, ne dis pas quand tu pars en vacances, ne dis pas où tu es allé en vacances, ne dis pas ce que tu as acheté, dis rien. C'est vraiment vivons discret, vivons caché. Après, moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement extraverti à ce niveau-là, mais j'ai grandi un peu dans le fais attention, la parano.
Mais c'est vrai que toi, du coup, avec Bref, notamment, t'as vraiment fait exister tous les tabous, je les pose là comme ça et c'est
chiant, mais j'ai plein de potes qui m'ont dit j'avais un pote qui m'a dit, parce que dans Bref, à un moment donné, il a eu une aventure un peu extra couple, et à un moment donné, le soir, il se couche et il met son téléphone face contre table au cas où il reçoit un texto dans la nuit, comme ça le téléphone, personne. J'ai un pote qui m'a dit pourquoi tu l'as dit ça?
Ouais, t'as tout dévoilé, t'as tout fait exploser,
j'ai tout lâché. Mais parce que je trouve qu'on est bien plus à l'aise on n'est pas dans le tabou et qu'on... J'ai besoin de beaucoup parler. Aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup avec mon entourage. On parle énormément de choses. Parce que je pense que la simple idée dont on ne parle pas, elle peut partir en boucle et ça peut créer un vrai poison dans ta vie, quoi. Ça peut être un truc dans lequel t'es en boucle et il suffit que quelqu'un te dise « Ah oui, mais non, regarde ça. » Et hop, ça te décante. Et ben, ça t'enlève la culpabilité. Et la culpabilité, je pense que c'est la plus belle façon d'être bourreau de soi-même.
Est-ce que cette expérience qui, mine de rien, est un héritage, même si toi, tu l'as pas vécu directement, mais est-ce que c'est un truc dans ta tête de dire à tout moment, on peut me couper de là où je vis, devoir tout quitter et recommencer tout ailleurs. Est-ce que tu es très, très attaché ?
J'ai pas la valise, la fameuse valise que j'ai plein d'amis qui disent, mes parents, ils ont toujours une valise prête sous la table, sous le lit. Non, je suis trop... à tort, hein, mais j'ai trop confiance. Non, mais il y a ce truc-là. Et en fait, je suis totalement amovible parce que quand on était petit, il y avait toujours une famille. Il y avait toujours 12, 15 personnes qui venaient à la maison en permanence. On se rend compte, c'est lourd. Hein. C'est du boulot de ouf de recevoir des gens. Et ils venaient, il y avait des matelas partout. Kian, ton lit, hop, tu le donnes à ta grand-mère. Hop, j'ai jamais eu... Voici, ça, c'est à toi. J'ai jamais connu la possession. Jamais. D'ailleurs, je prends pas soin de mes affaires du tout. Pour moi, un truc, c'est on l'utilise et après on le donne. Pareil, les livres. En fait, je donne toutes mes affaires généralement. Je donne tout. Je donne tout à des gens. Les gens, ils viennent chez moi. Ils font ah, c'est super, bah, prends-le. Ça m'a rendu très mobile. C'est-à-dire, si demain tu me dis, faut recommencer tout à zéro, mais vraiment de 0-0, et tu pars en Finlande, tu dois apprendre le finlandais. Tu vas vivre dans un... Tu vas repartir à la source, genre comme à Paris, quand je vivais dans une chambre de 6 mètres carrés. Et tu vois, et tu te dis... la chambre, c'est une caméra. Il y avait un salon quand même. Mais la chambre, c'était 6 mètres carrés. Mais il y avait une coloc, tout ça. Mais tu vois, c'est une petite chambre. Mm-hmm. Je pense que j'aurais la force de recommencer à zéro. Et j'ai de la chance, je suis très bien entouré. Et je sais qu'avec l'équipe là que j'ai, on pourrait repartir à zéro. Ouais. Mon père m'avait dit un truc, qu'il avait fait une analogie assez belle. Il disait, tu sais, la... On a une cocotte minute, là. Une cocotte minute, c'est un peu la base de la casserole que t'as, le fait-tout, tu vois. Et il dit, j'en ai acheté 4 dans ma vie, des fait-tout. C'est-à-dire que j'ai recommencé 4 fois ma vie à zéro. Et je suis... À 65 ans, il me disait, je suis pas à l'abri de recommencer une 5e fois. De racheter une cocotte minute, tu vois. Parce que c'est increvable. Je trouve que le symbole de la cocotte minute, voilà... Il me disait, voilà, ça c'est un... Tu vois, ça c'est... Quand on achète une, tu vois, tu peux pas la détruire, une cocotte minute. Et ben voilà. Il me dit, il y a toujours moyen de... Il m'a c'est vrai que j'ai toujours grandi dans cette... C'est peut-être ça, au fond, que j'ai une insécurité au fond de moi. Elle vient peut-être de là, c'est intéressant, ce podcast, je me pose une question. Je viens de m'ouvrir une question. Je vais demander aux auteurs dans ma tête de pencher sur cette question. Je vais leur donner comme un contrôle de philo. Je vais dire, les gars, maintenant, on a une nouvelle question. Qu'est-ce que vous en pensez? Putain, vous avez 10 ans.
Vous avez 10 ans.
Ça se trouve, c'est pour ça que j'ai cette insécurité de... C'est pour ça que je suis pas attaché au matériel du tout. Mais vraiment pas du tout. Et je te jure que non, je te jure que je me dis, bah, j'ai toujours pensé que ma richesse c'était mes idées et de me dire, c'est vrai que j'en ai parlé à ma femme, ça. Je me dis, si demain, je dis toujours, t'imagines si demain tout était fini, on se retrouve à la rue, au moins, je pourrais faire du stand-up et il y aurait peut-être 10 personnes qui viendraient et au moins, tu vois, on aura de quoi manger, et, tu vois, et c'est vrai que j'ai ça en moi, je m'en rends compte. Avec cette discussion, je m'en rends compte, c'est vrai. Et c'est vraiment la philosophie de mon père, quoi. C'est la philosophie des gens qui sont repartis de zéro. J'ai toujours envisagé et si demain, j'ai mon plan, quoi. Et je me dis, c'est pas grave, on se démerdera, quoi. Je réécrirai des idées, je repartirai de zéro. J'ai pas besoin de papier, j'ai besoin de rien, j'ai même pas besoin d'un téléphone, j'ai juste besoin de mon cerveau, quoi. La seule chose qui me rassure, c'est que j'ai un cerveau qui fonctionne. Et que je l'entretiens. Je me sens chanceux. Là, je me sens encore plus chanceux. Merci. J'avais jamais réfléchi à ça, mais. Ça sert à ça les podcasts, c'est se dire ah putain en fait, je pense à ça.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.